Libadou, votre invité ce matin, est auteur et illustrateur.
Et quel dessinateur ultra doué, prolifique, plus de 130 albums au compteur, dont une série de BD devenue un immense succès. Plus de 2 millions d'exemplaires vendus, traduites dans 15 pays. Le chat du rabbin, bonne nouvelle pour les fans, revient bientôt en librairie. 9e tome intitulé La Reine de Shabbat. Et il vient nous en parler en avant-première sur France Inter. Bonjour Johann Sfar.
Bonjour.
Et bienvenue à tous ceux qui se demandent combien de vies ont les chats. Vous apportez enfin la réponse.
C'est le 9e album dont j'ai parlé de ça. J'ai parlé des 9 vies.
Les chats ont 9 vies. C'est une mythologie populaire. On les a suivis, les aventures de ce chat qui est sceptique, qui est menteur, qui est philosophe, qui est amoureux et qui parle. On a suivi ses aventures d'Alger aux profondeurs d'une Afrique sublimée. On l'a vu s'interroger sur la religion, suivre Zlabia, sa maîtresse. Et maintenant ?
Bah maintenant, j'ai voulu mettre un peu les points sur les i. J'ai raconté l'histoire un peu avant le début pour montrer que si un chat a dû parler dans cette famille, c'est qu'il n'y avait plus de maman. Et comment a fait Zlabia pour grandir avec ce père un peu triste et ce chat qui parle trop.
La petite Zlabia qui a perdu sa mère et on ne sait pas comment le lui annoncer.
Oui, c'est ça. Donc on prend un chat parce que le chat va mettre la pagaille et ça remplace les mots qu'on se dit pas.
Il y a des choses qu'on découvre, que les fans vont découvrir justement à propos de ce chat. Des choses dont on se doutait mais qu'on n'était pas sûr absolument de comprendre. Je le dis de manière un peu brutale, mais est-ce qu'il y a un écho à votre histoire personnelle justement, que ça commence avec le deuil de la mère ?
Bah, moi j'ai perdu ma mère quand j'étais gamin et tous les héros de livres pour enfants étaient orphelins, mais je sentais bien que ça avait pas été écrit par de vrais orphelins. Il y a un fantasme chez l'enfant qui a ses deux parents. Il rêve de perdre ses parents. Moi, c'était pas mon cas. Donc j'essaie de faire du vécu sur les silences, sur les papas un peu trop tristes, sur ces choses-là. Pour autant, mon père n'était pas rabbin. Il avait d'autres qualités.
Non, pas du tout. En revanche, il y avait d'autres personnes plus proches du rabbinat dans votre famille. Le chat, il est toujours aussi sceptique sur la religion. Avec des histoires qu'il considère à dormir debout, Adam et Ève, Moïse, ça lui paraît toujours dingue. Et ce qui est formidable avec lui, c'est qu'il cherche à convaincre un rabbin que ce ne sont que des légendes.
Et pourtant, je les aime bien, les rabbins d'Algérie. Et sur tous les débats actuels sur la religion, moi, je dois dire que les gens qui m'ont le plus intéressé, ce sont des prêtres de toutes les religions qui se comportent un peu comme des garagistes de la foi. C'est-à-dire qu'ils promettent pas des grandes choses, mais qui, au quotidien, ont une fonction sociale essentielle, j'allais dire, au même titre que le prof de sport, au même titre que le psy. Et dans ce domaine pratiquement marxiste, c'est-à-dire le réel, là, le prêtre m'intéresse. Quand il me promet des choses que j'aurais pas, il m'intéresse moins. Donc le chat, il est là. Mais ce chat qui est progressiste par rapport à son rabbin, il est réac par rapport à sa maîtresse. C'est-à-dire que dès que Zlabia veut s'émanciper, le chat n'est pas content du tout.
Ouais.
Et il fait comme Johnny Cash, il veut de la bonne vieille religion, il va chercher le rabbin, il dit va rattraper ta fille, interdis-lui de sortir, fais-lui ceci. Donc le chat, et c'est ça qui est abominable, c'est qu'il est pratiquement de droite dans cet album. Et Zlabia essaie de s'en tirer avec deux réacs dans sa famille.
Vous trouvez qu'il est de droite, le chat ?
Bon, il est sacrément jaloux, en tout cas.
Mais ouais, il est jaloux, mais la jalousie, c'est pas un sentiment de droite.
Mais si, c'est quand on veut que rien ne change, quand on dit que le passé c'était mieux, quand on dit que le monde va à volo, que t'as... Alors, le chat, il essaye ça, parce qu'il voit sa maîtresse qui grandit, qui s'émancipe.
Qui s'émancipe et qui n'a pour liberté que de s'en aller, que de s'exiler, que de partir, mais après tout, on appartient à son chat.
Bah, c'est le sujet de l'album, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans une vie. Ça va au-delà de qu'est-ce que peut faire une petite fille ou une femme. C'est qu'est-ce qu'on a le droit de faire par rapport à ses parents. Elle, on va la voir sur les planches, on va avoir un faux destin d'artiste. Et quand elle est sur les planches, son père comprend pas ce qu'elle dit. Alors ça, pour le coup, c'est très autobiographique.
Il y a quelque chose de plus en plus sensuel dans cette BD. On se souvient, vous avez écrit des BD qui étaient érotiques, même un peu plus que ça, parmi ces 130 albums.
Ah oui, moi j'ai fait plein de livres pornographique, mais là c'est pas le cas du tout. Là,
non.
C'est le chat, l'enjeu, c'est que ça doit
mais
toujours.
Mais c'est très étonnant de voir Zlabia pour les fans devenir femme.
Bah ça doit être très, ça doit. J'essaie que ce soit amoureux, que ça puisse rester sur la table du salon, que des enfants puissent le lire, et j'essaie d'évoquer, à la manière de l'Algérie des années 20-30, des problèmes très actuels. Évidemment, je mets des problèmes, je dirais pas d'orientation sexuelle, parce qu'on dirait pas ces mots-là à cette époque. C'est quand quelqu'un veut t'embrasser, est-ce que tu te laisses faire ou pas? Et est-ce que tu le racontes à tes lecteurs? Hugo Pratt disait, je ne raconte pas quand Corto Maltese se déshabille. Mais pourtant, on se doute bien des moments de la saga de Corto Maltese où il a embrassé des personnes. Là, on se doute bien du moment où Zlabia a embrassé quelqu'un.
Comme chez Corto Maltese, il y a la dimension du conte. Et pourtant, là, à la différence de ce qu'on vous prête souvent, ce n'est pas un conte militant. Même si ça parle d'intolérance religieuse, même si ça aborde des questions qui sont extrêmement contemporaines dans notre société.
Oui, je suis terrifié par les gens qui ont tellement monté le son sur la dispute politique en ce moment. Vous parliez de Zemmour, mais il n'est pas le seul. Tout devient inaudible, donc j'ai essayé de baisser le son sur ça. Moi qui suis très gueulard.
Vous trouvez que ça devient inaudible? C'est très audible. Là, non. En l'occurrence, les propos d'Éric Zemmour, ils étaient très audibles.
Moi, j'ai le sentiment qu'on quitte le champ politique pour entrer dans la violence pure. Ça ne grandit personne. On ne peut pas traiter avec cette violence les questions identitaires, les questions des gens qui vivent dans ce pays. Il faut arrêter d'insulter tout le monde en permanence, ça fait avancer personne. Et j'ai essayé de baisser le son sur cet album. Je ne pense pas que je sois moins politique, mais j'essaye d'être plus dans le vécu du personnage, dans l'émotion. Je vais repartir. Hein.
Vous allez repartir.
Parce qu'on m'a tellement dit, il y a un seul sujet que tu pourras jamais traiter dans Le Chat du Rabbin, c'est le Proche-Orient. Parce qu'évidemment, dès qu'on parle de Proche-Orient, il y a tellement de bêtises dans tous les camps, parce que les gens n'ont pas envie d'en parler, ils ont envie de s'étriper, que je me dis, tiens, ok, dans le prochain, on y va. Mais
donc le chat aura 10 vies, et dans la prochaine, il essaiera d'établir la paix entre...
Non, la paix, il s'en fout. Je réfléchis juste... Non, je réfléchis juste à ces vieux juifs qui veulent aller se faire enterrer en Israël. Je me suis dit, est-ce que je peux pas faire un album sur quelqu'un qui veut aller se faire enterrer en Israël? Voilà, j'en sais rien. Je travaille là-dessus en ce moment.
Vous avez imaginé Le Chat du Rabbin au début comme une BD contre le racisme. Vous vouliez inviter les lecteurs, je me souviens de l'expression, à la table d'une famille juive. Vous avez dessiné des juifs qui ont l'air d'arabes. Et puis, ça a commencé en 2002, cette aventure du Chat du Rabbin. Et c'était à un moment où vous interveniez souvent auprès des jeunes dans les collèges, dans les lycées. Vous vous inquiétez de la montée des angoisses identitaires en France. 17 ans, 9 tomes plus tard... Vous n'êtes pas plus rassuré?
Non, c'est un échec total. Mais
vous le dites avec un immense sourire.
Non, mais parce que profondément, les idées, j'y crois pas. Je vous écoute tous les matins. Tous les matins, j'entends les idées qu'il faut avoir, qui sont dans le camp du bien, le machin. Ça m'agace prodigieusement. Moi, je pense qu'il faut bouffer ensemble. Il faut manger ensemble. Et après, quand on a bien mangé, on peut se disputer. Mais au moment du café. Aujourd'hui, ce qui m'ennuie, c'est que
on est au moment du café. Désolé, voilà. On n'a pas de croissant. Mais donc
les idées viennent tellement en avant que la dispute intervient avant qu'on se soit apprécié. Et je connais beaucoup de gens avec qui je suis en désaccord profond, mais comme humainement je les apprécie, je suis capable de déjeuner avec eux, je suis capable de parler avec eux. Cette idée qu'on continue de parler avec la personne avec qui on est en désaccord, cette idée-là n'est pas passée.
Même avec un ennemi, quand c'est pas seulement un adversaire, mais quelqu'un qui est radicalement opposé aux idées...
Qu'est-ce que c'est un ennemi ?
Que vous professez.
Ah oui.
Oui.
Ah oui. Moi, je viens de Nice, donc j'ai très souvent été à table avec des gens qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite, qui me traitaient de sale juif pour rigoler au milieu du repas, et puis c'est des copains quand même. Moi, je suis pas de la race qui s'horrifie. Quand on me dit que quelqu'un a fait ceci ou a fait cela, ça m'amuse beaucoup d'en parler avec lui pour savoir ce qu'il ou elle vous dit. Moi, j'adore dire les yeux dans les yeux à une personne qu'elle a dit des bêtises, que c'est une honte d'avoir dit ça, que c'est machin. Mais l'idée, qu'on ne va pas parler. Alors, c'est pas la même chose que d'aller à une tribune. Aller à une tribune faire de la publicité à son adversaire, c'est autre chose. Mais hors des caméras, déjeuner ensemble en disant, alors monsieur machin, qu'est-ce qui s'est passé avec les juifs? Qu'est-ce qu'on vous a raconté quand vous étiez petit pour que vous ayez cette névrose?
Oui.
Après, quand on vous dit, ah bah oui, c'est les 3000 ans de religion paternaliste, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors comment on sort de là? Mais pour moi, ne pas parler, c'est jamais une solution.
C'est ce qui arrive d'ailleurs, et parfois avec le sourire dans ce 9e tome du Chat du Rabbin, la question de l'antisémitisme, elle est de nouveau présente avec Malka au Lyon qui essaye de raconter un conte à des gamins et à des personnes qui sont clairement antisémites et qui veulent pas en entendre parler. Ils ne veulent pas entendre parler d'histoire de juifs.
Je sais pas s'ils sont antisémites, ils sont peut-être juifs eux-mêmes, puisque ce sont des berbères et qui est bien malin qui peut dire l'ascendance des berbères. La reine Kaena, ça voulait dire Cohen quand même. Mais c'est des gamins du désert à qui on a expliqué plein de choses sur les juifs. Et au bout d'un moment, le conteur en a marre et dit bon, si vous connaissez les juifs, je me lève. Non mais toi, t'es quand même pas juif. Et ils découvrent que leur conteur est juif aussi. Et malheureusement, tous ces mots... Moi, je milite pour le non-événement religieux. C'est-à-dire, la religion, c'est un goût. C'est bon, on aime ça comme on aime les tomates. Mais résumer quelqu'un à ça, c'est s'interdire le dialogue.
Et quand vous voyez l'antisémitisme, votre BD, elle se passe dans les années 20-30, on va le dire rapidement. En tout cas, c'est un passé mythifié. Mais avant le nazisme, quand vous voyez revenir... La question du nazisme dans l'actualité, un jour de Yom Kippour avec un attentat en Allemagne, c'est quelque chose dont vous pourriez vous emparer dans une BD ou pas ?
Je sais pas. J'ai jamais parlé de la Shoah dans mes ouvrages. Moi, j'ai le sentiment que c'est jamais parti parce que ça fait partie de l'imaginaire et occidental et oriental. Il y a une chose abominable, c'est que l'antisémitisme est un consensus chez les extrémistes, quel que soit ça va mettre tout le monde d'accord.
Oui.
Et j'avais vu une conférence où on m'expliquait Daesh s'en prend aux juifs parce que ça permet de mettre d'accord des gens qui n'avaient rien en commun sinon.
Ils peuvent même s'aimer, de
grâce
détester
à ça,
ensemble.
Grâce à ça, on le plaisir de détester ensemble. Je pense que ça partira jamais, c'est une constante.
D'un mot, vous revenez à la BD, vous avez écrit des films, vous avez fait des films d'animation, vous avez écrit un roman assez récemment. Pourquoi la BD ? Pourquoi toujours y revenir ?
Parce que je suis dessinateur, c'est mon métier. Tous les autres trucs que je fais, c'est grâce aux bandes dessinées.
C'est vrai. Et bravo. En tout cas, le 9e tome du Chat du Rabbin arrive en librairie chez Dargaud le 26 octobre prochain. Dès que je parle avec quelqu'un, j'ai tendance à l'associer avec un animal. J'ai très peur de la réponse, mais vous m'associez avec quel animal? Et faites vraiment gaffe à votre réponse.
Ah, qu'est-ce que je peux trouver de beau, d'ondoyant, de séduisant, de charmant?
Un tigre?
Non.
Allez.
Oui, un lion puissant. Mais
ah,
non, un petit charme.
Merci. Mais non, pas Johan Sfar, on garde le lion. Bonne journée, merci infiniment.
Merci à tous les deux.